Aujourd'hui, 20 avril 2013, 19e année, 7e conférence spirituelle de Jackie Parmentier. Thème de cette année, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ». Titre de la conférence d'aujourd'hui, « Comment garder espoir dans le monde et l'humanité ».
Voilà. Donc, pour aborder hein, ce thème de garder l'espoir dans le monde et l'humanité, je voulais regarder ça de trois manières, en gros. La première chose que je voulais voir, c'est qu'il y a un homme qui nous a éclairé sur cette capacité de garder l'espoir dans l'humanité, c'est Teilhard de Chardin. Et donc je voudrais qu'on puisse regarder des textes de Teilhard pour voir ce qu'un homme, et surtout l'approche de Teilhard, c'est que d'une certaine manière, c'est une approche qui n'est pas une approche dans la foi, c'est une approche scientifique. Il étudie le réel de l'existence, et pour dire que, et à un moment donné, vous verrez dans un des textes, il dit, tout ce qu'on imagine comme étant les catastrophes qui vont arriver à l'humanité, comme étant ces fins du monde catastrophiques, elles ne peuvent pas arriver parce que l'aventure de la création de la Terre, de la biologie, de tout ça, fait que ça va quelque part. Donc c'est déjà extrêmement intéressant. Donc démarrer sur uniquement une observation un peu scientifique des choses. Donc première étape, voilà ce qu'un scientifique est capable, en regardant le passé, de nous dire comment va être l'avenir, et donc de garder espoir. Hein, parce que c'est ça, la grande affaire de l'espérance, c'est d'avoir une confiance dans l'avenir. Hein, et ça, c'est une des grandes problématiques. Nous sommes des grands spécialistes du passé, mais peu sont de bons spécialistes de l'avenir. Et le problème de l'avenir, c'est là que se joue l'espérance, c'est un certain regard sur l'avenir. Donc, première étape, on va regarder ce qu'en pense, ce que nous en dit Teilhard de Chardin. Puis, il va y avoir une deuxième étape, c'est maintenant, quelle est la vision chrétienne de l'avenir ? Et ma méditation, enfin, j'ai envie de regarder, moi, pendant ce mois, puisque j'étais habité par ce thème, on va prendre un passage de l'Apocalypse. Hein, sachant encore que, là encore, ce mot d'apocalypse, assez souvent, il est tout de suite compris sous le mode d'apocalyptique, quoi, hein, catastrophique, etc. Alors que le vrai terme, vous le savez, le vrai sens de ces termes, qui est dévoilement, hein, c'est de nous ouvrir sur un avenir qui nous donne confiance. Donc ce sera un deuxième, quelques passages bibliques, mais surtout celui de l'Apocalypse, si on a encore du temps. Puis troisième étape, qui serait un peu des réflexions que j'ai de ce mois-ci sur ce thème-là, et fondamentalement sur ce comment garder espoir dans le monde, et bien comment rester en permanence en amitié avec la présence qui peut nous donner confiance dans l'avenir. Voilà donc. Donc premièrement, on va lire du Teilhard ensemble, si vous voulez. Donc Joël, peut-être tu peux les faire passer. Donc tous les textes que nous avons là sont tirés d'un des derniers livres de Teilhard qui s'appelle Le phénomène humain. Il y a trois pages. Hein. On ne sait pas si on lira tout, mais en tout cas, vous avez trois pages de travail sur un livre que un livre clé de Teilhard qui s'appelle Le phénomène humain, et où justement il appelle ça le phénomène, c'est-à-dire uniquement ce que moi j'en ai un. uniquement ce que l'observation nous permet de dire. Il y a peut-être... il y a tout juste dans ce livre, qui est un gros livre, hein, qui doit faire 300 pages, il y a à la fin un petit appendice, une petite annexe, où il parle de ce qu'il appelle le phénomène chrétien, en quelques pages. Mais sinon, ce n'est pas le problème de la foi chrétienne. C'est un regard scientifique sur notre monde et, entre autres, l'homme, pour essayer de se donner une réflexion sur l'avenir de l'homme. Hein, parce que ça, ce n'est pas difficile, à vrai dire, de réfléchir sur le passé de l'homme, mais c'est est-ce que, en étudiant le passé, et Teilhard est un homme qui a étudié sur le passé, puisqu'il est à la fois il est géologue et ethnologue. Donc ce qui fait qu'il étudie le passé, mais en étudiant le passé, il dit, mais voilà vers où pourrait être l'avenir de l'homme, si on regarde son passé. Donc voilà, on va lire des passages. Et donc, comme toujours, hein, la plupart de ces écrits n'ont pas été édités de son vivant. Hein, voilà. Alors donc, tous les passages sont donc tirés du phénomène humain. Évolution égale montée de conscience. Montée de conscience égale effet d'union. Voilà, donc hein, il écrit ça comme ça, c'est des espèces d'égalité. S'il y a une évolution, l'évolution, toute l'aventure de l'évolution biologique, c'est fait pour qu'il y ait une montée de la conscience. Et puis, dès qu'il y a de la conscience, ça a tout de suite un effet d'union. Le rapprochement en bloc d'une humanité dont les fragments se soudent et se pénètrent à nos yeux en dépit, en proportion même des efforts qu'ils font pour se séparer. Alors voilà, c'est toujours le langage de Teilhard, il faut entrer dedans, hein, une façon d'écrire. Les hommes, malgré tous les efforts que font les hommes pour se bagarrer, eh bien, il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements. Comment est-ce qu'on réussit à vivre en village, comment est-ce qu'on réussit à vivre en pays, en région, en nation, comment on réussit à s'associer. Voilà. Il y a un processus, tout cela prend jusqu'au fond figure intelligible dès qu'on y aperçoit la culmination naturelle d'un processus cosmique d'organisation qui n'a jamais varié depuis les âges lointains où notre planète était juvénile. Il y a un travail d'organisation, un travail de rassemblement, un travail d'unité. Mystérieusement, c'est comme ça. Et ça, les savants ont bien du mal à comprendre cette affaire-là. Parce qu'a priori, quand il y a de la poussière quelque part, il y a du mal pour qu'elle fasse quelque chose d'ordonné. Le processus de l'évolution, c'est qu'au début, c'est toujours plus simple, c'est très très élémentaire, et plus on avance dans l'évolution jusqu'à maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, complexe, construit. Alors que si, par exemple, vous ne vous occupez pas de votre maison pendant plusieurs années, qu'est-ce qui se passe ? Tout se dégrade. Ouais. Normalement, les choses se dégradent et vont vers la séparation, vers l'élémentaire. Une maison qui était bien construite, en l'espace de 500 ans, ça va faire un paquet de sable. Et donc, comment ça se fait que, partant des choses élémentaires, ça se construit ? Voilà, c'est toute cette affaire. D'abord, les molécules carbonées, avec leurs milliers d'atomes symétriquement groupés, ensuite la cellule, où sous un volume minimum, des milliers de molécules se montent en un système de rouages figurés. Ensuite, alors voilà, on a, hein, il y part, voilà, il y a d'abord les atomes, qui se rassemblent, qui vont faire des énormes molécules carbonées. Ensuite, ces molécules s'associent encore, ça va faire la cellule, ça va faire les premiers vivants, les protozoaires, puis il va y avoir les métazoaires. Nous sommes un métazoaire, c'est tous les animaux, hein, où la cellule n'est plus qu'un presque infinitésimal élément. Aujourd'hui, hein, si on pense à un être humain, ou un chat, ou un chien, eh bien, c'est des milliards de cellules qui comprennent chacune de ces cellules, des milliards de molécules, et chacune de ces molécules, assez souvent, des centaines de milliers d'atomes. Plus outre encore, comme par îlot, les tentatives multiformes faites par les métazoaires pour entrer en symbiose et s'élever à un état biologique supérieur. Là aussi, hein, ces animaux complexes, et par exemple, c'est surprenant, comme aujourd'hui, on sait très bien que la manière dont nous vivons, nous, dont les cellules vivent en nous, c'est qu'il y a eu association de cellules vivantes particulières. Et il y en a une particulière à l'intérieur de notre cellule qui permet les échanges de nourriture, et sans aucun doute une espèce de bactérie qui s'est associée. Donc tout ça, c'est des fruits d'association. Et maintenant, comme un germe de dimension planétaire, la nappe pensante, l'ensemble des hommes, qui, sur toute son étendue, développe et entrecroise ses fibres, non pour les confondre et les neutraliser, mais pour les renforcer en l'unité vivante d'un seul tissu. Toujours plus de complexité, et donc encore plus de conscience. Nul élément ne saurait se mouvoir ni grandir qu'avec et par tous les autres avec soi. Donc on voit, hein, une première réflexion de Teilhard qui est là de dire, surprenante évolution, où du plus simple on va vers le plus compliqué, mais le plus compliqué amène à la conscience, à la réflexion, à la pensée. Et toute son idée, c'est de se dire, si on prend un peu ces lignes du passé et qu'on va les prolonger vers l'avenir, c'est qu'on va vers une association de plus en plus grande des cellules de conscience et on va vers de plus en plus de conscience. Autour de nous, en l'espace de quelques générations, toutes sortes de liens économiques et culturels se sont noués. Et quand il écrit, vers 1948, il ne connaît pas encore Internet, il ne connaît pas tout ça. Il voit ces choses-là d'une autre manière encore maintenant. Autour de nous, en l'espace de quelques générations, toutes sortes de liens économiques et culturels se sont noués, qui vont se multipliant en progression géométrique. Ça va à une vitesse de plus en plus grande. Maintenant, en plus du pain qui symbolisait dans sa simplicité la nourriture d'un néolithique, tout homme exige chaque jour sa ration de fer, de cuivre et de coton, sa ration d'électricité, de pétrole, sa ration de découverte, de cinéma et de nouvelles internationales. Ce n'est plus un simple champ, si grand soit-il, c'est la terre entière qui est requise pour alimenter chacun d'entre nous. Si les mots ont un sens, n'est-ce pas comme un grand corps qui est en train de naître ? N'est-ce pas comme un grand corps qui est en train de naître avec ses membres, son système nerveux, ses centres percepteurs, sa mémoire, le corps même de la grande chose qui devait venir pour combler les aspirations suscitées en l'être réfléchi par la conscience fraîche acquise, qu'il était solidaire et responsable d'un tout en évolution. Alors là, il se dit, hein, dès que la réflexion est venue, la pensée est venue dans les hominidés, et puis qui se développe de plus en plus, il y a la volonté de croissance, la volonté de développement, la volonté d'habiter toute la Terre. Ça aussi, c'est un élément surprenant, la manière dont, dont l'humanité s'est répandue sur toute la Terre. Et puis donc, hein, cette parole, là aussi, Théia, pas d'avenir évolutif à attendre pour l'homme en dehors de son association avec tous les autres hommes. On voit ça aussi, hein, et on verra que, on le sait bien dans nos difficultés, on a de temps en temps la tentation de se séparer, hein, et à tout moment, c'est des choses qui vont venir, de vouloir s'écarter, refuser une collaboration, un être ensemble. C'est parce qu'on est mal, on est très mal. Dès qu'on va plutôt bien, on se tourne vers une association avec d'autres. Donc on continue, hein, on est là, c'est dans les 50 dernières pages de ce livre, Le phénomène humain, parce que ben, les pages précédentes, il aborde tous les débuts de ce qu'il va appeler les temps géologiques, la prévie, la vie, etc. Et là, on est sur l'après-aujourd'hui, vers où va-t-on ? Une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une sorte de super-conscience. La Terre, non seulement se couvrant de grains de pensée par myriades, donc voilà, il dit, hein, des grains de pensée, il dit maintenant, réfléchissez à ce qu'était le monde il y a 5 milliards d'années, c'était des petits grains de matière. Et ça a réussi à devenir, progressivement par association de tout ordre, à faire qu'il y ait de la conscience. Et si, aujourd'hui, on pouvait considérer que nous étions un peu, nous les hommes, des grains de cette matière pensante, cette grain de conscience, eh bien, est-ce que nous sommes pas en train d'aller vers une association, d'être en capacité de résoudre à la fois tous les problèmes de notre planète et de l'humanité. La Terre, non seulement se couvrant de grains de pensée par myriades, mais s'enveloppant d'une seule enveloppe pensante jusqu'à ne plus former fonctionnellement qu'un seul vaste grain de pensée à l'échelle sidérale. La pluralité des réflexions individuelles se groupant et se renforçant dans l'acte d'une seule réflexion unanime. À un moment, il dit ça. Si jamais les hommes réussissaient à s'unir, quand on voit comment quelques-uns qui s'unissent ont des capacités incroyables de faire d'action pour résoudre les problèmes, si les hommes étaient capables de s'unir, de réfléchir ensemble, de passer leur temps autre chose qu'à se faire la guerre, etc. Alors voilà, un million d'années peut-être ont été nécessaires à la vie pour passer des pré-hominiens à l'homme moderne. Et parce que moins de deux siècles après avoir entrevu au-dessus de lui un état encore plus haut, cet homme moderne est encore en train de lutter pour se dégager de lui-même. Nous commencerions déjà à désespérer. Alors, c'est de dire, hein, voilà, quand on regarde l'humanité, quand on écoute les infos, on a de quoi désespérer. Et puis nous, enfin, qui n'a pas été dit, mais enfin, quand il y a eu l'affaire de ce ministre du budget, oh, c'est dit, rien ne nous sera épargné. On se dit ça, hein. Et alors, Teilhard, il dit, écoutez, il a fallu 5 millions d'années, 1 million d'années peut-être pour que des préhominiens là, deviennent un peu des hommes modernes. Et nous, ça fait 2 siècles qu'on commence à réfléchir un peu sérieusement à notre organisation. Cet homme est encore en train de lutter pour se dégager de lui-même. Nous commencerions à désespérer. À aucun âge de l'histoire, l'humanité n'a été aussi bien équipée et n'a fait autant d'efforts pour ordonner ses multitudes. Et là, alors ce qui est intéressant quand même, hein, c'est que Teilhard, on ne peut pas dire qu'il ait vécu dans un rêve, puisque l'essentiel de son illumination intérieure vient au cœur de la guerre de 1914-18, sur les champs de bataille de Verdun. Et il parle de ça après la grande aventure de la guerre de 40-45 et de l'aventure de ce que les nazis ont fait faire. Donc, on est juste à l'après-guerre, hein, quand il écrit tout ça.